l'avant-match. Voici François Paquette.
François Paquette, chroniqueur sportif, également descripteur des matchs des Capitales l'été, à qui on parle chaque semaine dans l'avant-match. Salut François.
Salut Dan, ça me fait penser plusieurs personnes que j'ai croisées cette semaine qui m'ont dit « Oh, le baseball s'en vient, là. Le football est fini, on tombe d'une petite période creuse, mais les camps d'entraînement commencent pour le baseball. »
Au lendemain du Super Bowl, j'ai vu un reportage avec le président des Red Sox, je pense, et on voyait la vanne quitter Fenway Park avec tout l'équipement pour le camp d'entraînement. Là, je me suis dit « Le baseball s'en vient. »
Oui, puis il y a déjà des lanceurs et des receveurs qui sont arrivés à leur camp respectif, là, mais pour vraiment que les camps se mettent en branle, c'est un petit peu plus tard au mois de février, mais là, ça commence tranquillement, puis c'est drôle parce qu'il y a des journalistes qui disaient, surtout ceux qui sont là depuis un bon bout de temps, ils disent, autant t'as hâte que le camp d'entraînement commence, autant t'as hâte qu'il finisse.
Ouais.
c'est le fun, tu revois ton monde, mais le camp d'entraînement, là, surtout quand tu sais pas mal qu'ils vont être les joueurs, qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, t'as hâte que ça commence pour le vrai, mais ça reste que ça, même si t'as parlé de météo tantôt, là, puis je sais que demain, ça annonce pas nécessairement comme une journée de baseball, mais ça s'en vient quand même à très grands pas.
Absolument. C'est toujours le fun, la saison de baseball, et j'ai eu beaucoup de bonheur à visiter des stades aux États-Unis, et je vous dirai, les auditeurs, que puis vous êtes plusieurs à me dire qu'à chaque année, vous allez voir un match de baseball, ou certains me disent qu'ils vont faire une expédition de football l'automne pour voir un match de la NFL. Mais je vous dirais que j'ai commencé à aller voir des matchs de baseball aux États-Unis, malheureusement, à partir de 2004, quand les Expos ont quitté Montréal.
Oui, ouais. Les gens qui se promènent, ben, j'en croise souvent des gens qui viennent au Stade Canac l'été, qui me parlent de leur voyage, puis le stade de San Francisco revient souvent dans les discussions, dans ceux qui ont été les plus appréciés. Là.
C'est un des
plus beaux.
Absolument.
Puis je pense que c'est une question de d'architecture, d'emplacement.
Oui.
C'est assez magique. Là.
Je dirais Pittsburgh revient souvent dans les discussions aussi.
Oui, puis Pittsburgh est peut-être plus réaliste aussi dans ce qu'on entrevoit pour Montréal. Là, je sais que aujourd'hui, là, on a commencé à parler là, que
oui.
les gens du dossier Bronfman et compagnie ont trouvé leur terrain, mais à tout le moins ont fait leur demande. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient, tu sais, Pittsburgh, c'est modeste, mais c'est très bien fait pour, tu sais, c'est pas trop gros, c'est bien fait. Eux, avec la vue sur le pont, il y a une vue extraordinaire. Je pense qu'on a vraiment à Pittsburgh trouvé la formule magique pour les petits marchés, un peu comme Baltimore l'avait fait avec le Camden Yards dans les années 90, puis ça avait un peu relancé l'idée de stade à toit ouvert, parce que les années 70-80 ont été des années de stade couvert, de gazon synthétique, puis là, à partir des années 90, on est revenu à la vieille mode, puis je pense que c'est bien comme ça, baseball à ciel ouvert avec du gazon naturel, c'est ça le baseball pour tout le monde.
Absolument. François, parce que je sais que tu es capable d'en prendre, ce soir, j'ai préparé une série d'une dizaine de questions où tes réponses devront être un peu plus courtes qu'à l'habitude si on veut passer au travers de toutes mes questions, mais c'est un genre de pour ou contre, ou d'accord, pas d'accord. OK?
Parfait.
Je commence avec Evgeny Malkin. Un match de suspension. Suffisant, selon toi?
Non, pas d'accord. Moi, je pense que si ça avait été n'importe qui d'autre, ça aurait été plus sévère. La Ligue nationale va probablement dire, tu sais, qu'on l'a pas, il l'a pas atteint de plein fouet, mais le geste
est le même.
Là. Moi, ça aurait été certainement un 2 ou 3 matchs de suspension.
Mais le geste est le même. Si le gars, c'est Michael Raffles, je pense, qui a passé proche de se faire tuer, ben, s'il tombe en commotion puis il joue pas pendant 4 mois, c'est quoi la suspension?
Non, il aurait probablement eu 5 matchs. Je pense si l'autre avait été blessé sérieusement. Hey, parce que, tu sais, les gens qui ont peut-être pas vu la reprise, là, c'est à une main, mais c'est toutes ses forces à une main, un peu en signe de frustration. Écoute, s'il frappe de plein fouet là, dans mâchoire ou quelque chose comme ça, il aurait cassé des dents, certains. Moi, je pense honnêtement que ça aurait mérité plus qu'un match de suspension.
OK, Alain Vigneault, entraîneur-chef des Ducks. D'accord ou pas d'accord?
Ben écoute, c'est pas l'idée que j'ai en tête, puis de ce que je vois, puis de ce que j'entends, c'est que Dallas Eakins est le grand favori, là, celui qui avait coaché les Oilers avec le beau toupette, là, c'est un beau bonhomme qui parle bien,
ouais,
qui a beaucoup de succès à San Diego dans la filiale des Ducks. Je pense que c'est lui le candidat numéro 1, mais c'est, sincèrement, je déteste pas l'idée. J'ai juste hâte de voir, Dan, quelle direction on va prendre chez les Ducks, parce que là, c'est le DG qui est à l'arrière du banc. On a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y avait plus aucun morning skate pour les Ducks. On ne patinera jamais, jamais en matinée, à part ceux qui veulent venir de façon volontaire. Fait qu'on a pas mal tiré la plug pour cette année. Mais oui, je déteste pas l'idée. Si Dallas et Kings n'ont pas le poste, je pense que ça pourrait être un candidat très intéressant pour les Ducks.
OK, les Islanders, 5e au classement général. Feu de paille ou pas?
Ça, c'est une bonne question. Feu de paille ou pas? Non, je pense, je vais dire non parce que moi, là, ce que j'ai vu de statistiques depuis la fin du mois de décembre, les deux meilleurs gardiens dans la division métropolitaine au niveau du pourcentage d'arrêt, c'est Robin Lehner et Thomas Greiss. C'est peut-être là la différence, c'est que les deux sont en très grande confiance. Barry Trotz a changé le système de jeu aussi. On va s'entendre, Dan, que si tu es un wild card dans la conférence, tu as mieux affronté les Islanders champions de division que le Lightning de Tampa Bay, mais je pense qu'ils sont meilleurs que ce qu'on aurait cru. Donc, je dis non, c'est pas un feu de paille.
OK. Dale Weiss à Montréal, d'accord ou pas?
Oui, d'accord. Honnêtement, puis sans rien enlever à Agostino et Chaput qui ont fait du travail très respectable sur la quatrième ligne, Delorier, Thompson, Weiss, moi, je trouve ça très intéressant comme quatrième trio. Thompson gagne les mises en jeu, puis il y a quelqu'un qui avait la réflexion, il dit « Thompson, c'est pas compliqué. Quand il est sur la glace, il n'y a jamais de but, ni de son bord, ni de l'autre bord. » Fait que c'est comme quatrième trio. C'est comme parfait. J'ai juste hâte de voir la place qui va revenir à Charles Hudon. Les rumeurs circulent que le Canadien le magazine, là, mais je comprends pourquoi on est allé chercher Thompson. Ça n'a à peu près rien coûté, puis ça va aider le Canadien, entre autres, sur le quatrième trio et également les mises au jeu.
OK, tu as un seul choix. Tu prends Jonathan Huberdeau d'ici la date limite de transaction avec cette année et quatre autres saisons à 5,9 millions par année. Il y a un prix à ça. Je peux pas t'établir le prix ce soir. Ou tu prends Panarin avec 2 mois de contrat.
Oh, ça, c'est une très bonne question. Sincèrement, là, je suis pas un amateur de longs contrats puis de, tu sais, d'absorber, comme tu dis, un 5,9 pendant encore 4 ans. Mais je pense que, définitivement, si le prix se ressemblait, je préfère quand même avoir Huberdeau à long terme. Tu sais, il joue bien, il joue de mieux en mieux, mais il y a quelque chose qui clique pas en Floride. Puis je sais pas si c'est pas juste au niveau personnel, c'est au niveau équipe aussi, là, tu sais, qu'il manque quelque chose, puis c'est peut-être un gardien de but. Mais je pense que Jonathan Huberdeau a encore une très bonne valeur, encore de très bonnes années. Panarin, toujours dit, c'est le personnage qui m'inquiète un peu. Pour 2 mois, écoute, pour une longue run en série, ça peut être intéressant, mais je pense que le prix, c'est trop cher à payer parce que déjà, il a annoncé que lui, il voulait aller sur le marché des joueurs autonomes. Donc, je pense que je prendrais Huberdeau.
OK. Joe Thornton, hier, dépasse Gordie Howe, 9e de tous les temps pour les mentions d'aide. Joe Thornton, pour toi, c'est un joueur sous-estimé ou surestimé?
Bien, je pense que c'est un joueur sous-estimé parce que pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce que Joe Thornton est un gars qui va aboutir au temple de la renommée? Puis des soirées comme hier, où tu dis, voyons donc, il est rendu, tu sais, 7e pour les points ou, tu sais, les assistances, puis des affaires comme ça, tu dis, voyons donc, c'est sûr que Joe Thornton va aboutir au temple de la renommée, peu importe que ce qui se passe le reste de sa carrière. Et c'est la première année a été fascinante. Dan, tu te rappelles, à Boston, il y avait eu 7 points avec Pat Burns comme coach, il avait presque pas joué. Ça a mal été à Boston, puis la transaction qu'il l'envoyer à San Jose changer sa carrière. Donc, moi, je pense que c'est un gars qui va finir au temple de la renommée puis qui a souvent été sous-estimé, peut-être parce qu'il jouait dans un marché comme San Jose, mais ça a été un très, très, très bon guerrier dans la Ligue nationale.
Louis Leblanc fait une sortie aujourd'hui sur le site de Radio-Canada dans la plateforme Podium. Il exprime ses états d'âme 2 ans après avoir annoncé sa retraite. Pour toi, Louis Leblanc n'a pas saisi sa chance ou il n'a pas eu sa chance?
Moi, je vais dire, il n'a pas eu sa chance. Puis Dan, j'étais un peu biaisé parce que j'ai lu ce texte-là aujourd'hui puis j'ai trouvé ça excellent. Pour les gens qui l'ont pas vu, prenez le temps. Moi, je trouve que dans le cas de Louis Leblanc, évidemment, il y a eu une tonne de pression sur ses épaules. 95% des gens qui ont chanté Louis, Louis, Louis le soir du repêchage l'avaient jamais vu jouer au hockey. Et à partir du moment où il y a eu le changement dans la direction puis qu'on a fait le grand ménage, on sait pas trop pourquoi, mais il y a eu une perte de confiance envers Louis Leblanc. Donc, je pense qu'il aurait mérité de jouer plus que 50 matchs avec le Canadien. Puis je ne dis pas qu'il aurait performé, mais je pense qu'il aurait mérité certainement d'avoir une chance un petit peu plus grande pour un gars qui avait été un choix de première ronde, un Québécois repêché par le Canadien. Mais prenez le temps d'aller lire ça. C'est vraiment très, très intéressant sur sa carrière.
Si je te donne le choix, t'es d'âge, puis oui, tu veux jouer pour les mini-nordiques ou les mini-remparts?
au Mini Nordique, sûr et certain, puis sans rien dans le vaut rempart, c'était, écoute, je fais partie de la génération nordique, là. J'ai les ai vus grandir, passer proche de gagner, puis partir. Certains les Nordiques, puis à l'époque, quand il y avait le tournoi, je pense, c'était, comment on appelait ça, la conférence Amérique, là, ou quelque chose comme ça, où c'était toutes les équipes de la Ligue nationale qui étaient là, il y a eu après ça un break qu'on a pris, mais vraiment, là, ça, c'est des très, très, très bons souvenirs pour moi d'aller voir les petits Nordiques au tournoi, puis oui, aucun doute, moi, ce serait petit Nordique.
Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est les mini-remparts.
Ah, oh, puis c'est normal. C'est
ben oui,
normal.
C'est normal. Ben oui, écoute, ils connaissent pas Nordique.
En partant de 95, les Nordiques, ça veut dire ben qu'il ben, y a bien des jeunes qui ont jamais connu ça. Ben mais ouais. Moi, écoute, ça aurait été le rêve de tout petit cul de notre âge, c'était vraiment de représenter les petits Nordiques au tournoi, puis oui.
OK, excuse-moi. Will me fait dire remarquer à juste point. D'ailleurs, tantôt, on parlait de Dallas Eakins. Je voulais y aller en rafale, mais j'en ai deux autres questions pour toi, François.
Oui.
Tantôt, on me disait, François a dit qu'il était bon dans la Ligue américaine avec San Diego. Il était bon dans la Ligue américaine aussi avec les Marlins. Le problème, c'est que quand il est arrivé avec les Oilers, il a dit aux gens là-bas, « Hey, savez-vous quoi? J'ai une idée. » Tous les posters, toutes les affiches de Marc Messier, Paul Coffey et Wayne Gretzky, on va enlever ça pour repart à zéro. Ça a bien été aussi.
Mais c'est des coachs très différents. Écoute, ça ne fit pas partout, ce genre d'entraîneur-là, de gars qui devant les médias, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui a une personnalité des fois qui est dure à en bon français, on dit à 16. Puis Dallas Eakins, remarque qu'il était dans une époque où les Oilers étaient dans une période creuse, mais il y a de ces gars, Dan, puis c'est pas juste au hockey, là, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui, quand arrivent à la dernière étape, ils sont pas capables. Puis si Dallas Eakins a sa chance avec les Ducks l'année prochaine, ça va probablement être sa dernière chance, parce que si ça fonctionne pas, ça va être terminé. Comme Glenn Golodin avec les Flames de Calgary, même genre de gars qui, je pense, faisait très bien dans la Ligue américaine, mais qui a eu beaucoup de difficultés dans ses deux séjours dans la Ligue nationale de hockey.
OK, David Pastrnak est blessé au moins deux semaines, blessure à un pouce, au même âge, au même salaire. Pastrnak ou Bergeron?
Oh, c'est une très bonne question. Écoute, je vais dire Bergeron parce que c'est un joueur qui est beaucoup plus complet. Mais Pastrnak, offensivement parlant, ce gars-là me fascine année après année. Puis je trouvais à un moment donné que les, tu sais, depuis une ou deux années que les gens le repêchaient tôt dans les pôles qu'on faisait. Mais écoute, Pastrnak est quoi, 10e marqueur de la Ligue nationale? C'est un des meilleurs joueurs au talent brut au niveau offensif. Mais j'ai pas le choix de dire que Bergeron, tu sais qu'il peut faire aussi le travail offensivement, puis il n'y a personne qui peut le battre pour couvrir le meilleur trio de l'autre côté. Donc, je vais dire Patrice Bergeron.
Le gagnant du trophée Heisman, Kyler Murray, a déclaré qu'il se commettait à temps plein pour le repêchage de la NFL. Ça sous-entend qu'il va devoir rembourser 90% du boni que les Aces lui avaient donné. Si toi, tu es Kyler Murray, tu joues au baseball ou au football?
Ben écoute, personnellement, puis c'est pas un choix au niveau de la popularité du sport que j'aime le plus, mais je prendrais le baseball simplement pour une question de santé. Je pense que, et puis Kyler Murray est très honnête en disant que le football, c'est son sport, puis il veut être carrière dans la NFL, mais c'est certain qu'au niveau financier aussi, c'est une décision qui est beaucoup plus facile, parce que il va signer un contrat énorme comparativement à ce qu'il y a eu comme Bonnie avec les A's. Ça va être un contrat énorme, peu importe s'il est repêché 5, 10 ou 20, mais il va être repêché en première ronde. Mais côté santé, Dan, je pense que c'est là que ça me surprend le plus, parce que Murray est très petit, c'est un gars qui va se faire brasser dans la NFL, c'est sûr et certain. Tu penses toujours aux blessures sérieuses, puis au tout ce qu'on voit dans les après-carrières. Moi, je pense que le baseball, évidemment, c'est très différent comme sport. C'est pas physique de la même façon, mais pas du tout. Mais le baseball, c'est souvent, ça peut être 3, 4, 5 ans dans les mineurs avant de te retrouver dans les grandes ligues. C'est un chemin qui est très différent. Kyler Murray va être repêché en première ronde, puis il va probablement être partant l'année prochaine ou dans deux ans. Donc, c'est très différent. Mais moi, j'aurais pris le baseball simplement pour une question de santé.
OK, le dernier, c'est pas tu choisis, c'est un fait, c'est une vérité. C'est une question piège, par contre. Il y a deux défenseurs dans le top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire. Lequel a le plus de points, Bourque ou Coffey?
Oh, c'est une très bonne question. Eh boy, je vais prendre Paul Coffey.
1135 passes pour Paul Coffey. Mais 1169 pour Raymond Bourque.
OK, ils sont vraiment,
c'était
vraiment
proche, pas loin. C'était une question piège, là.
Mais tu prends les deux défenseurs, là, tu mets ça, t'en fais un avec les deux, là. C'est t'aurais le défenseur parfait au niveau coup de patin, offensif, défensif. C'est deux excellents défenseurs.
Le seul endroit où tu peux avoir ça, c'est au PlayStation.
Oui.
Merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, Dan. Bonne soirée.
Salut bien. On écoute maintenant Dale Weiss, le nouveau venu chez le Canadien. Philippe Dano. Puis Claude Julien, tabarouette, une panoplie d'extraits présentés par Will qu'on vous présente à l'instant.
Avant chaque match, à Québec, on écoute Dan.
I just feel revived. And I don't really want to talk about the past in Philly the last 2 years. I'm always looking forward. And you guys know me, I'm a pretty positive guy. And this is going to be awesome for me. Couldn't have came at a better time.
Il est extrêmement heureux d'être ici. Il est excité. Le rôle qu'on va lui donner, je pense qu'il va... Il va l'adorer. Alors, ces choses-là, ça risque de nous aider.
Non, je suis pas surpris. Je pense qu'il avait très bien fait ici dans le temps. Je sais pas combien de temps ça fait exactement. 4 ans? Depuis le mois.
Ouais.